Les masterclass de France Culture. Aujourd'hui, Emmanuel Guibert avec Arnaud Laporte.
Nous ouvrons à présent la masterclass d'Emmanuel Guibert ici à la Bibliothèque nationale de France, partenaire de cette grande collection d'entretiens, tout comme le Centre national du livre. Le principe de la collection, c'est le suivant, c'est de savoir comment une ou un artiste construit une œuvre, vraiment de façon très concrète, comment ça se fabrique, de l'idée de départ jusqu'au moment où l'artiste considère l'œuvre comme achevée. Alors, pour dire quelques mots sur vous, Emmanuel Guibert, dire que vous êtes un enfant unique, élevé dans des bras chauds et accueillants, plein d'amour, aviez-vous dit dans un entretien au Figaro. Bras chauds, parmi lesquels ceux d'un père grand lecteur de bandes dessinées. Alors, selon la légende, toute légende a sa part de vérité, vous étiez tout petit quand votre maîtresse a signalé à vos parents vos capacités exceptionnelles à dessiner. Alors, qu'est-ce qui tient, selon vous, de la transmission paternelle et de la vocation ?
La question de la façon dont le dessin nous arrive m'intéresse bien. À vrai dire, elle m'habite, elle me hante depuis toujours. J'ai essayé d'y réfléchir un peu dans un petit texte que j'ai écrit il y a longtemps qui s'appelait « Le dessin petit » et qui était une réflexion la plus anecdotique possible sur mes souvenirs de dessinateur entre 0 et 6 ans. Et comme toujours, quand on sollicite par l'écriture nos souvenirs les plus lointains, ils viennent, ils affluent. J'ai dû arrêter ce texte, je me souviens, au bout de l'équivalent d'une petite dizaine de pages, parce que c'était l'étiage qu'on m'avait donné pour figurer dans le livre où il devait être. Si on m'avait pas donné cette limite, je pense que j'y serais encore. C'est infini de réfléchir à la façon dont, enfant, nous nous emparons des outils qui sont mis à notre disposition. Il n'y a pas plus austère, en fait, qu'un petit crayon et un bloc avec lequel on rédige au vol la liste des commissions avant d'aller acheter les œufs, le beurre et le fromage. Or, on découvre très rapidement quand on est enfant, parce qu'on adore maculer les surfaces, qu'on peut trouver un tout autre usage à ce petit carnet, avant même que quiconque d'ailleurs ne vous l'ait expliqué, et on s'y met. Et s'y mettant, je pense qu'on découvre un certain nombre de sensations extraordinairement excitantes, auquel ensuite il n'est pas question de renoncer, parce que c'est trop fort, c'est trop bon, c'est une réponse tout à fait adaptée, je trouve, aux caresses et aux agressions du monde extérieur qu'on ressent très tôt, et qui elles-mêmes sont d'une force et d'une violence inouïe. Et alors j'avais fait un petit développement, je me souviens, sur le gribouillis, qui est réputé être la première manifestation de nos capacités de dessinateur et qui correspondent grosso modo aux gestes de compas que peut faire le bras dans l'axe du corps en décrivant comme ça très naturellement des espèces de cercles, de vortex qui déposent sur la feuille ces igouigouillis, ces écheveaux absolument indémerdables comme ça qu'on empile, qu'on accumule. Et quand je retombe dessus, moi, parce que évidemment nos gribouillis sont jetés la plupart du temps, nos parents conservent nos premiers dessins parfois qui ont une apparence qui commence à représenter quelque chose. Papa, maman, la maison, le feu qui sort de la cheminée, le canard sur l'étang. Mais les gribouillis, il est rare qu'on les conserve. Les seuls qu'on conserve, en fait, c'est ceux qu'on a fait dans les bouquins. C'est les gribouillis blasphématoires, comme ça, qu'on va loger sans savoir que l'objet est sacré encore. On l'apprendra un peu plus tard, mais quand on est petit, c'est un support sur lequel on peut... En plus, des pattes de mouche assez rébarbatives y sont alignées, on comprend pas à quoi ça sert. Et tout ce qu'on voit, c'est que c'est du papier et qu'on peut s'en servir pour dessiner dessus. Et quand on les revoit, on est frappé de l'énergie qu'on met à ça, de l'aspect à la fois jubilatoire, vengeur, surexcité qu'il y a dans ces petits écheveaux. Et on se dit que si on a été tellement excité, c'est que nécessairement, on a été sollicité. Quelque chose est venu nous provoquer. Et à ce moment-là, on réfléchit à l'état de provocation constante auquel on est soumis par le réel qui nous entoure, qui non seulement nous entoure, mais qui nous palpe, qui nous pelote, qui nous donne des coups de boule, qui nous fait tomber, qui nous écorche dès notre plus jeune âge. Et cette espèce de dialectique entre ce qu'on subit et la réponse qu'on est fichu d'y apporter par l'exercice du dessin, je pense qu'on passe tous par là. Ensuite, il y a ce grand mystère qui fait que 90% d'entre nous, et sans doute plus d'ailleurs, renoncent à cet exercice, quitte à y revenir parfois infiniment plus tard dans l'existence. Mais il y a eu ce tronc commun. Je pense que chacun d'entre nous a une familiarité avec le dessin, quand bien même il se considère comme exilé. Donc ces gens qui dessinent plus disent très volontiers « j'ai arrêté parce que je suis nul ». Quand je veux dessiner quelque chose, ça n'a aucune tenue, je n'arrive pas à représenter le réel. Mais néanmoins, j'ai dessiné, ce qui fait que je conserve une espèce de sympathie pour le dessin. J'aime le regarder, peut-être qu'il m'impressionne moins que la peinture, une espèce de, comme ça, de familiarité. Voilà, moi et puis il y a ce petit peuple qui s'arrête pas, qui est tellement convaincu de l'importance centrale de l'efficacité du procédé comme viatique dans l'existence, pour nous servir vraiment de baguette de coudrier, de bâton d'équilibriste, du funambule. C'est un apport tellement fondamental, tellement... Là, je commence à plaider pour ma chapelle, évidemment, mais je dois tellement au dessin que, même si je ne suis pas prosélyte par tempérament, que je n'aime pas monter sur un tonneau pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire, je constate, en participant moi-même à l'entreprise qui consiste à faire renouer des gens avec le dessin, après qu'ils l'ont abandonné pendant parfois des décennies, je constate, et vous constaterez si ça vous arrive, qu'au fond, le dessin n'est jamais bien loin de vous, en dépit du fait que vous l'ayez négligé, et que si vous voulez bien, à un moment ou à un autre, essayer de le rattraper par la manche et d'y sacrifier un peu de votre temps, et peut-être de faire cette grande révolution intérieure qui consiste à se dire « je ne dessine pas pour obtenir un résultat qui me déçoit nécessairement, mais rassurez-vous, des dessinateurs que vous pouvez considérer comme efficaces, doués, talentueux, sont tout aussi déçus que vous l'êtes par leur dessin. La seule chose, c'est que ce qui leur plaît, c'est de dessiner. C'est vraiment le moment où on dessine, c'est le processus, c'est la capacité que nous offre le dessin. C'est l'obligation dans laquelle nous met le dessin de regarder autour de nous pour pouvoir le nourrir. C'est le côté alibi, en fait, extraordinaire qu'il y a dans la nécessité où nous sommes, pour dessiner, d'être éveillés. Et on a besoin de ces alibis parce qu'on a besoin de discipline. On a besoin de se donner à soi-même, régulièrement dans l'existence, un certain nombre de mots d'ordre qui nous sortent, je pense, de l'aspect un peu latent, un peu suspendu, un peu endormi. On sent tous souvent, c'est l'effet de la pesanteur, c'est l'effet de l'usure de la vie, que le quotidien nous voudrait un peu à l'état de flaque, comme ça, sur le trottoir, quoi. Et il s'y emploie. Alors tout ce qui, dans ce contexte, évidemment, nous invite à nous redresser et à essayer de nous saisir d'un outil, d'une technique, d'un savoir-faire pour exercer nos capacités, tout ça, c'est le bienvenu. Et parmi tout ça, il y a un moyen d'expression très austère. Le plus ancien avec le modelage et le fait de tailler, disons, une pierre en biseau qui n'est pas changée depuis la nuit des temps. Je fais partie d'une bande d'amis qui nous intéressons depuis quelques années maintenant à l'art pariétal. Et il s'appelle David Prudhomme, Troubs, Pascal Rabaté, Étienne Davodeau, Baudouin, Marc-Antoine Mathieu, Chloé Cruchaudet. Je suis désolé si j'en oublie, parce que je... Mais le fait est qu'on est une petite bande comme ça. On va dans les grottes. Et on a même vécu une expérience très amusante au mois de septembre dernier. On nous a alloué une grotte pour y peindre. Parce qu'il y a quelques temps, mon copain Prudhomme était invité à une station de radio et il a lancé comme un shot in the dark, comme disait mon copain Alan Cope. Et il a dit, la prochaine étape de notre petite confrérie, ce serait qu'on nous confie une grotte. Et c'est tombé dans l'oreille d'une responsable du parc régional des Causses du Quercy, du côté de Cahors, là, qui nous a trouvé la grotte en question. Et donc on est allé peindre sur ces parois pariétales. Et on en a profité pour aller au Pêche-Merle, qui était à quelques centaines de mètres de là, qui est une grotte que je connais depuis l'enfance parce que ma mère était cadurcienne. Et je dois dire que c'est extrêmement riche en découverte que de retourner voir les dessins au sein de la grotte. Et si ça ne vous est pas arrivé depuis un certain temps, je vous encourage à le faire. On a la chance d'être un des pays les mieux fournis en grottes ornées du monde. Donc c'est jamais très sûr. On a toujours une grotte ou une reproduction de grotte très bien faite à portée de TGV ou à portée de voyage. Donc ça vaut le coup d'y aller. Et puis nous, on a eu cette expérience extraordinaire. On nous a fait ce cadeau merveilleux de nous proposer de mettre la main à la pâte.
Bon, vous attaquez fort, Emmanuel Guibert. Je me demandais si je placerais encore une question dans l'heure d'entretien, mais moi ça me va très bien. Hein. C'est un conteur, il est chanteur, danseur, musicien, conteur donc. Mais je le savais déjà. Et puis celles et ceux qui vous écoutent et qui vous lisent savent bien vos talents de conteur. Alors du coup je vais sauter un nombre incroyable de questions pour essayer de me concentrer sur quelques-unes et pour dire que bon, alors il y a eu aussi un passage très rapide aux Arts Déco, il y a un travail de storyboarder pour des cinéastes comme Jean-Marie Poirier, et puis une revue, Trajectoire, qui permet de rencontrer des gens, surtout des gens que vous admirez, comme Liberator. Et puis il y a ce premier album, Brune, projet très ambitieux, hein, il s'agit quand même de parler de la peste brune, pas d'une brune, une jolie brune. Et la réalité va être quand même rude, parce que ça nécessitera 7 années de travail pour ce premier album, notamment parce que le scénariste prévu vous lâche, mais du coup il faut faire contre mauvaise fortune, bon cœur, ce que vous faites. Mais 7 ans pour un premier album, quelles leçons vous en avez tirées? Est-ce que ça vous a donné une méthode pour la suite, Emmanuel Guibert?
La première leçon qu'on tire d'un travail hypertrophié, c'est de pas recommencer. Donc ça, j'ai compris assez vite qu'il fallait pas que je me relance dans le même genre de défi absurde. Cela dit, je regrette pas du tout d'avoir, si j'ose dire, de m'être foutu en tôle moi-même, parce que je pense que ce sont des années, classiquement, on s'en rend compte quand on engendre soi-même des grands adolescents, ce sont des années où la quantité de points d'interrogation qu'on a en suspension au-dessus de la tête est telle que... on est tous prêts, on a tous plus ou moins fait des gestes, pris des décisions, des initiatives qui n'auront plus leur équivalent dans notre vie, qui n'en avaient pas auparavant et qui n'en auront plus ensuite. Ce sont des moments où la nécessité de se connaître, qui nous paraît très pressante, un peu moins ensuite, mais il y a un âge où on se dit je serais peut-être bien inspiré de savoir qui je suis pour pouvoir me présenter à autrui, trouver une place dans la société. Et là, pour ce faire, on essaye des trucs. Et on les essaye parfois, et même souvent d'ailleurs, en se cognant aux portes, en se faisant des bleus. Donc c'est le moment où on part à la guerre la fleur au fusil, on vous met en tôle, ou alors on s'y met tout seul, on fait des choses parfois un peu extrêmes, un peu... Et toujours, à mon avis, dans le but d'essayer de voir un peu quel est notre précaré, quelle est notre envergure, qu'est-ce que nos épaules peuvent porter. C'est vraiment un âge d'expérimentation que je suis pas fâché d'avoir vécu comme ça. D'abord, j'étais aussi très très conscient de mon immaturité. Je le suis toujours, d'ailleurs. Mais maintenant, j'en fais un peu quelque chose. À l'époque, elle me paraissait simplement coupable et même dangereuse. Donc, mais je la trouvais aussi agréable. Tout ça est très ambigu, hein, mais on est tous très ambivalents. Je pense que j'ai travaillé longtemps aussi parce que je voulais rester auprès de ma mère. Je voulais pas quitter papa, maman. C'est peut-être tout simplement ça. Et puis il y avait aussi cette espèce de fringale inextinguible qu'on a d'un mode d'expression qu'on découvre. Alors quand je dis qu'on le découvre, je me contredis un peu, puisque j'ai dit tout à l'heure, pour ainsi dire, que j'ai commencé à dessiner intra-utéro, donc je ne l'ai pas vraiment découvert à ce moment-là, mais disons que c'était le moment où, de quelque chose de spontané, j'ai essayé de faire quelque chose qui pourrait être tourné vers autrui, développer un récit, s'adresser aux autres, etc. Donc c'est un changement de statut quand même, parce que après avoir dessiné de manière totalement désintéressée, si j'ose dire, on se rassemble tout d'un coup et on se dit je vais dans une direction. Je cesse d'aller dans tous les sens, je vais dans une direction. Et ça, c'est un récit. Et puis on se lance, et puis on est comme sur le pas de Tomblaine, là, quand on va au Mont-Saint-Michel à pied. tout d'un coup, la marée arrive et on se dit, il va s'agir de nager peut-être là. Puis on est emporté au loin et on finit par rejoindre la terre ferme très longtemps après, alors qu'on pensait que c'était l'affaire d'une petite demi-heure. Et il nous aura fallu 7 ans. Voilà. Donc on sort de ça un peu groggy, toujours aussi immature, mais en même temps un peu vieilli avant l'âge. Je me souviens que j'avais la poitrine creuse et je faisais le tour du pâté de maison à petits pas, tellement j'étais allé loin dans l'épuisement. Et puis c'est là aussi qu'on teste, quand on n'est pas d'accord avec soi-même, qu'on considère qu'on est passé à côté de ce qu'on aurait dû faire, ce qui arrive, enfin moi ça m'arrive plus souvent qu'à mon tour, si on n'a pas les deux pieds dans le même sabot, si on n'aime pas souffrir, si on a une espèce d'instinct de conservation, à ce moment-là on se dit comment faire pour m'extraire de l'ornière dans laquelle je me suis mise. Et on essaye de changer. Et c'est marrant de, comme on change aussi de manière un peu aveugle et désordonnée, parce qu'on ne sait jamais trop vers quoi on va. Moi, j'ai changé du tout au tout en passant de la solitude et d'un travail, d'un seul et unique travail en quelque sorte pendant 7 ans, à tout d'un coup l'entrée dans un atelier qui était peuplé par une tribu bigarrée, marrante, cultivée, vacharde. Extrêmement savoureuse et j'ai tout de suite senti, j'ai vu que j'avais affaire à des gens avec lesquels il faisait bon être quoi. Et ils s'appelaient donc Johannes Farr, Christophe Blin, David B, Émile Bravo, Marc Boutavant, Marjane Satrapi, Frédéric Boilet, là aussi j'en oublie. Et on avait une maison d'édition qui s'appelle l'Association, qui Dieu merci existe toujours et dont nous étions tous un peu satellitaires comme ça. Et là, j'ai senti que j'avais bien fait de me botter les fesses, de sortir de cette espèce de situation, certainement encore une fois très immature, de claustration autour d'un travail au final foireux, parce qu'il faut bien dire ce qui est, cet album, il n'est pas très bon. Mais moi, je l'aime bien pour les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire qu'il m'a appris des choses. Mais il était temps de faire autre chose. Autre chose, ça a été collaborer à tout crin, c'est-à-dire passer de cette espèce d'idée que l'artiste, en fait, c'est quelqu'un qui est... Bon, j'avais beaucoup lu Proust, donc c'est vrai que j'étais un peu prisonnier de l'image de la chambre tendue de Liège, dans laquelle, moyennant quelques sorties pour aller repérer si Monsieur de Bréauté a bel et bien les moustaches tombantes ou les moustaches en l'air. Mais ensuite, on rentre chez soi, on écrit, et puis on délivre sa manne géniale à l'univers, qui est... qu'on n'est pas voué à rencontrer, mais qui vous applaudit depuis l'extérieur, comme ça. On peut se dire, en toute logique, voilà, une vie d'artiste, c'est ça. Moi, c'est ce que je croyais, puis je me suis très vite rendu compte que si, moi, n'étant hélas pas Marcel Proust, je faisais pas ça, je faisais ça, je veux dire, je n'accoucherais que de choses parfaitement stériles et complètement ratées. Donc, je me suis dit, essayons l'inverse, qui va consister, au contraire, à se mélanger, à se frotter au maximum à des gens talentueux, et attraper les rencontres comme elles viennent, voir ce qui est possible en proposant tout d'un coup à un inconnu qu'on rencontre au coin d'une rue, en train de scier du bois devant sa porte, de faire des livres avec lui et 25 ans après de continuer sur le chemin qu'on a entamé ce jour-là. Enfin, se lancer dans des initiatives très différentes, aller voir à 180 degrés de là où on était ce qui se passe et prendre cette habitude. L'habitude de se contredire, de se contrarier, de se renier, parfois, ça fait pas de mal. Il y a cette phrase marrante de Groucho Marx qui disait « Ce sont mes valeurs, et si vous ne les aimez pas, j'en ai d'autres. » Voilà. Donc, moi, je cherche toujours si j'ai pas d'autres valeurs par rapport à celles que je crois, souvent de manière un peu sèche et intellectuelle, portées en moi depuis des années, sans jamais vraiment les interroger, et en ayant l'impression d'une espèce de présence ronronnante et familière en moi. Ben non, allons voir si au contraire l'inverse n'est pas vrai, s'il n'y a pas... Ouais.
Mais avant d'évoquer ces différentes collaborations, Emmanuel Guibert, puisqu'on enregistre cette masterclass France Culture ici à la Bibliothèque Nationale de France, vous évoquiez Marcel Proust, donc sous influence. Il y aura plus tard aussi le Capitaine Écarlate, influencé par Marcel Schwab. De quelle façon la littérature vous nourrit ?
La littérature et singulièrement les Marcel, comme vous en avisez.
J'en ai d'autres. Pagnol. Oui. Cerdan n'a pas écrit de livre, mais il pourrait.
J'aime beaucoup Pagnol aussi. Bon, il faut bien dire ce qui est, c'est qu'il est évident, on ne sait pas pourquoi on dessine. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est une aptitude qui nous vient si tôt qu'il est très difficile d'interroger notre propre préhistoire, et c'est peut-être la raison aussi pour laquelle on va dans la vraie préhistoire essayer de chercher des éléments de réponse. Par contre, l'écriture, ça nous vient un peu plus tard, donc on voit à peu près quel est le processus. Après avoir écrit le dessin petit, j'avais commencé il y a longtemps un texte que j'ai jamais achevé, ça m'arrive souvent, ça, qui s'appelle « La lecture petit », et où je fais exactement le même exercice, c'est-à-dire j'essaye de me souvenir, encore une fois, de la manière la plus concrète possible, vraiment, de ce que ça a été pour moi que d'accéder à la lecture. En commençant, bien sûr, par les lectures qu'on vous fait. Je parlais des bras chauds et tendres, donc j'ai eu la chance d'avoir ça, et au bout de ces bras, il y avait souvent des bouquins. Et donc, on m'a lu des livres. Et puis, il y a un moment où on comprend que si papa ou maman, tout d'un coup, prennent une voix étrange, qui n'est pas leur voix habituelle, se mettent tout d'un coup à jouer des rôles, prennent des voix de fausset ou des voix de basse, ou des... c'est qu'en fait, ils sont en train de lire une partition, ce qu'on ne comprend pas tout de suite, bien sûr. Mais petit à petit, on voit qu'ils suivent du doigt certaines lignes, qu'ils nous désignent des choses, etc. Donc, il y a un moment où on invente l'écriture. Chacun d'entre nous invente l'écriture. Et puis, il y a le moment où on se l'approprie. Et là, bon, moi, je dis souvent que mon objet préféré quand j'étais petit, c'était mon ours, que j'ai toujours, d'ailleurs. Mais je vous parlais de maturité. Mais dès que j'ai connu la lecture, évidemment, j'ai remisé mon ours. Et j'ai décidé que mon objet préféré au monde et pour les siècles des siècles, ce seraient les livres. Et que je n'aurais sans doute pas de plus grand bonheur que de faire des livres. C'est toujours vrai, sauf que quand j'étais petit, je pensais que les livres, c'était la fin. C'est-à-dire qu'il fallait faire des livres pour faire des livres. Pour les aligner sur l'étagère, pour qu'ils soient là disponibles, pour qu'ils m'offrent et qu'ils offrent à autrui le genre de bonheur que j'avais enfant et un peu plus tard à les lire. Et puis ensuite, j'ai compris, justement, en rencontrant mes amis, en commençant à collaborer avec l'une ou l'autre personne à qui j'ai pu, par exemple, consacrer des biographies, que faire des livres, c'était avant tout, là encore une fois, comme le dessin, un alibi pour avoir soi-même, en fait, une existence romanesque. Quelle que soit la qualité des textes ou des romans qu'on pond, le fait est que les pondre nous oblige d'une certaine manière, comme le dessin, à nous insérer dans l'existence, ou en tout cas à essayer de nous en souvenir, si on raconte des épisodes du passé, avec un maximum de vivacité. Et pour ce faire, c'est pareil, il faut être présent, il faut exercer notre sens de l'observation, il faut exercer tout ce qui... On sait que tous les modes d'expression artistique, en fait, ont avant tout comme conséquence et comme source la présence. On est obligé d'être présent à ce qu'on fait. Quand on joue une sonate, quand on danse, quand on... si on n'est pas là, on fait une fausse note, on se casse la gueule. Il faut être là. Il faut être là quand on dessine, il faut être là quand on écrit. Et le critère de la qualité de ce qu'on obtiendra, il est vraiment dans l'intensité de notre présence. Plus on est à la fois dans la maîtrise et dans l'incandescence, je trouve, de nos capacités, de nos talents, a priori, meilleur c'est. Donc c'est une mise en demeure d'être très présent, très ouvert, très liant, très en rapport avec toute chose, tout être. Et c'est pour ça que ça rend la vie intéressante.
Alors, en l'an 2000, c'est la naissance du personnage d'Ariol. Dans le magazine J'aime lire, avec Marc Moutavant au dessin, vous au scénario, Emmanuel Guibert, pour cette série... qui a donné naissance à ce jour à quoi, 20 albums, 21
bon. Ça change tous les ans, donc une vingtaine.
Oui, bon, ça dépasse depuis un certain temps le million d'exemplaires vendus en tout. Il y a eu une série animée à la télévision, il y a eu des chansons aussi importantes d'Ariol avec ses amis. Ariol a donc 23 ans, c'est pas trop difficile pour compter. Comment vous expliquez-vous la longévité de ce personnage-là?
À l'origine... La commande qui m'a été faite consistait à feuilletonner, c'est-à-dire à être présent régulièrement dans un support de presse. Donc on sait déjà d'emblée, quand on reçoit cette commande, qu'il va falloir assurer, en avoir sous le coude ou sous le pied. Et cela dit, on est incapable, évidemment, et heureusement, d'imaginer, quand on se lance dans une aventure pareille, que 23 ans après, on aura toujours les fers au pied, on sera toujours en train de... Cela dit, on a tout intérêt, quand on reçoit une demande comme celle-là, quand quelqu'un vous dit, on vous ouvre un espace dans un magazine destiné aux enfants, en l'occurrence d'une dizaine d'années, pour y être mensuellement présent, on a intérêt à trouver un ferment, une idée de départ, qui soit évidemment fertile, qui nous donne bon espoir de pouvoir être là, en tout état de cause, quelques années après, en ayant peut-être fait le tour de la question, mais en tout cas en ayant développé un univers. Donc là, le premier geste, la première graine qu'on jette, le premier épisode, puisqu'il n'y a que le premier pas qui coûte, il faut bien faire quelque chose, il faut démarrer. Il a intérêt, cet épisode, à être gros, à être porteur de beaucoup d'autres. Et donc je me suis tout naturellement posé la question, sur une plage, je me souviens, en Normandie. J'avais les falaises dans le dos, la mer devant moi. Fallait que je trouve une idée, j'avais pas le choix. Je pouvais ni reculer, ni avancer. Et elle était froide, ce jour-là. Et donc, ils sont sortis de l'eau, tous, là, cette petite bande. Et ils sont venus assez naturellement se réunir autour de moi. Parce qu'en fait, je me suis dit, voilà, il me faut des contraintes d'emblée. La première d'entre elles a été de me dire, voilà, pour avoir un vivier riche, demande-le à ton enfance. Si tu veux tenir le coup longtemps, va vers ce qu'il y a de plus précieux en toi, de plus résonnant. Va vers ce qui est, tu t'en rends compte toi au quotidien, dans toutes tes réactions, dans toutes les rencontres que tu fais, dans toutes les émotions qui te saisissent. Va vers cette source qui est constamment là et qui ne demande qu'à s'exprimer. Elle le fait généralement in petto, comme on dit, c'est-à-dire que l'enfant en nous passe son temps à gigoter, à s'effrayer, à se réjouir de ce qui lui arrive, quand bien même on grisonne sous le harnais et on est certain que ce sera toujours le cas quand on sera nonagénaire si on ne l'est jamais. L'enfant est là et c'est lui qui continue à ne pas comprendre, somme toute, et en même temps à se réjouir, à s'effrayer, à avoir des réactions infinies, colossales, écorchées. Et cet enfant, on peut le laisser, si j'ose dire, dans cette espèce de salle d'attente, là, en essayant de lui fournir de temps en temps de quoi se tenir tranquille. Mais si on trouve un moyen de le faire s'exprimer, de le faire jouer, à ce moment-là, là aussi, on se fait du bien. Encore une fois, c'est des espèces de viatiques. Se dire, tiens, je vais retourner dans mon enfance. D'abord, il se passait quelque chose d'assez idéal, c'est que j'ai toujours eu la sensation que, grosso modo, quand je suis passé de 9 à 10 ans, j'étais au sommet de ma carrière. Je crois que je n'ai certainement pas progressé depuis, et dans le registre des émotions, je pense n'avoir plus jamais vraiment ressenti des choses aussi frappantes, aussi bouleversantes, aussi considérables que ce qui a pu me tomber dessus quand j'étais... dans ce moment assez charnière de l'enfance où on va quitter l'école primaire et bientôt basculer vers le collège. Et ces années étaient tellement présentes en moi que je me suis fait confiance en me disant, si je me mets à les raconter, nécessairement il y aura des choses à dire, beaucoup de choses à dire. Et donc j'ai décidé que cette histoire, ce serait un an de la vie de ce personnage. Je me suis dit que Joyce avait consacré, je ne sais plus, 4000 pages à une journée de la vie. Donc si j'avais un an de la vie d'un enfant... certainement, j'aurais beaucoup de choses à dire. Et le fait est, 23 ans après, le robinet continue à couler, c'est-à-dire que je dois mensuellement, qui vente, qui neige, qui pleuve. Donc on a, Marc et moi, on est à la tête d'à peu près 2500 pages d'histoire. Pour l'instant, je suis obligé de considérer que c'est infini. En tout cas, c'est l'illusion dont je me berce. Mais elle est nourrie, mois après mois, par le fait que avec plus ou moins de facilité, un sujet vient. L'écriture n'est jamais facile. J'en bave toujours des ronds de chapeau. Mais les idées, elles continuent à venir. Elles précèdent d'ailleurs. Généralement, j'ai un petit listing d'idées quand même, que je traiterai ou pas, qui consiste en un mot souvent. Et plus ces idées sont infinitésimales, plus elles concernent des micro-épisodes de l'enfance qui paraissent dénués de sens à quiconque je les énoncerai, plus je suis content.
Alors, ce que vous venez de dire là, Emmanuel Guibert, cette sorte d'hypermnésie de ces années-là, ça renvoie quand même à quelque chose que vous travaillez là aussi depuis longtemps, c'est la mémoire, mais la mémoire d'un autre, puisque il faut bien aussi qu'on parle de cette rencontre essentielle en 1994 avec Alan Ingram Cope, vétéran américain, un homme que beaucoup de monde connaît, puisque il y a eu là aussi des tirages impressionnants de tous ces albums que vous avez consacrés à cette biographie dessinée qui commence avec la guerre d'Alan, à l'association, puis y a une trilogie, puis il y a l'enfance d'Alan, il y a Martha et Alan. En fait, ce que vous venez de dire concernant votre enfance, vous avez aussi déporté ça sur cet homme-là, aller chercher par des heures et des heures d'entretien avec lui tous les souvenirs possibles.
Je reviens à la Libye. Je pense que pouvoir aborder quelqu'un qui vous intéresse, qu'on ne connaît pas, hein, puisque quand j'ai proposé à Alan de faire des livres ensemble, je crois que c'était la troisième fois qu'on se voyait. La première fois, c'était un quart d'heure pour lui demander mon chemin. Vous me direz qu'un quart d'heure, c'est long pour répondre première à droite, deuxième à gauche. En fait, dès ce jour-là, il m'a dit déjà pas mal de choses. Mais je l'ai quitté ce 16 juin 1994 en me disant « c'est un homme intéressant, mais je le reverrai jamais enfin ». Et puis le hasard nous a remis en présence le soir même, puis quelques jours après. Donc c'était trois fois. C'est peut-être pour ça que je fais aussi beaucoup de trilogies. Je sais pas, il y a un côté très ternaire dans ma vie. Je suis le fils unique d'un couple. Je suis moi-même père d'une enfant unique. J'aime bien la valse. Enfin, tout ce qui correspond de près ou de loin au chiffre 3, je sais pas, ça me correspond assez. Et donc, le troisième coup, je suis en train de faire des croquis. Les croquis m'ont apporté énormément dans la vie, non pas tant les croquis eux-mêmes, il se trouve que j'en fais des livres et évidemment j'ai une passion pour le dessin d'observation, mais c'est encore une fois la procédure, le processus du dessin qui m'a très souvent mis dans des circonstances idéales pour les rencontres, la conversation ou tout simplement des espèces de moments de satori dans les villes, dans la nature, qui tenait à ce rendez-vous spécifique entre eux, moi et puis un quart d'heure de l'existence où tout d'un coup le fait de la regarder me révélait des choses merveilleuses ou dégueulasses, mais l'essentiel étant d'être tout d'un coup suspendu à ça et puis d'en prendre la sténo, quoi. Et donc la troisième fois, je fais des croquis sur le port, j'entends derrière moi. C'était Cherokee, le chien d'Alan, qui était en train de me... J'étais assis par terre, donc il était en train de me renifler. Et puis j'entends « Complément ». Et c'était donc une troisième rencontre avec Alan. Et troisième, bon, on a compris que... Ben, d'ailleurs, au théâtre, on frappe trois coups aussi. Donc c'était le moment de vraisemblablement tomber en amitié. Et il m'a invité le soir même donc chez lui. J'en suis ressorti, passé minuit, des livres en main... après avoir éperdument parlé de musique, des arbres, de lecture. Quelqu'un qui vous met tout de suite des bouquins en main, quand même, c'est dès le premier jour. Il faut tenir compte aussi de cette espèce de temps en temps, de jubilation qu'on a à croiser certains êtres qui sont selon notre cœur. Et ce qui est bien dans la pratique de la bande dessinée, ou la pratique romanesque, c'est qu'on peut tout de suite faire une proposition, en disant, en substance en fait, vous me plaisez, donnons-nous une petite, donnons-nous un rendez-vous régulier en fait, pour s'écouter un peu plus que l'existence ne nous le permettrait si on était des gens qui se contentent de partager un moment en terrasse et puis de se voir quand l'inspiration leur en prend. Non, donnons-nous un rendez-vous régulier, faisons quelque chose, bâtissons quelque chose. C'est toujours un grand vecteur de développement de l'amitié que d'avoir quelque chose à faire ensemble. Et il était prêt, à fond. C'est-à-dire qu'il a réagi avec le flegme qui était le sien, mais j'ai bien senti que c'était une idée qui l'enchantait. Il croyait pas trop, d'ailleurs, que ce serait durable. Il avait l'habitude... il lui arrivait lui-même d'être assez revêche dans l'existence. Donc peut-être aussi parce qu'il avait été certainement malmené, déçu, etc. Mais à l'époque, ces relations étaient rares et c'est quelqu'un qui connaissait une relative solitude. Et j'ai souri intérieurement tout à l'heure quand vous disiez Arnaud, beaucoup de gens le connaissent. C'est toujours touchant de penser que quelqu'un qui disait lui-même « je ne suis rien », en effet, par cette initiative qu'on a prise ensemble, tous les deux, deux illustres inconnus, dans notre coin, décidant de se retrouver régulièrement dans un jardin pour y enregistrer ses propos pendant que le jardin s'arrosait, en entendant les voitures passer sur la route nationale au bout du jardin. C'est deux gus qui ont fait ça, qui y ont passé des heures absurdes, invraisemblables. N'importe qui serait rentré dans cette cabane pendant qu'on enregistrait nos conversations, aurait dit « mais qu'est-ce qu'ils se racontent, ces deux types ?» Vous seriez resté une demi-heure auprès de nous, vous auriez dit « mais ça n'a aucune espèce d'intérêt. » Et on était suspendus l'un à l'autre, comme s'il était en train de me révéler le secret de la pierre philosophale. Enfin, ça, c'est le talent des gens qui ont un verbe, c'est que j'étais complètement scotché, hyper attentif, bouillonnant intérieurement, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on veut être. Dieu sait que ça ne nous arrive pas tous les quatre matins, mais il y a des circonstances de l'existence où tout d'un coup, on est assis au bon endroit, on le sent, et à ce moment-là, on ne mégote pas son temps. Là aussi, c'est la merveille de ce métier, dès lors qu'on arrive à en dégager une petite économie qui nous permet de se dire tout ce que l'existence ne voudrait pas, c'est-à-dire qu'on continue, qu'on se laisse perdre, si j'ose dire, du temps, avec mille guillemets, là, on se l'autorise. On se l'autorise sans aucune espèce de restriction. Il voulait que je saute dans un train, je sautais dans un train. Ça m'est arrivé de plus en plus à mesure qu'il avançait en âge, évidemment, puisqu'il avançait aussi, hélas, dans les progrès de sa maladie. Et à la fin, on a passé d'autant plus de temps ensemble qu'il avait vraiment besoin de ma présence. Mais voilà, ça, ce sont les circonstances, à mon avis, requises et idéales pour qu'on puisse aller le plus loin possible dans la confidence. Dans la confidence et dans la confiance, qui sont des mots qui se confondent d'ailleurs entre le français et l'américain. Et donc ça, c'est un voyage très intéressant que d'aller avec quelqu'un du côté de ce qu'on ne se dit pas volontiers, du côté d'une franchise qui donne à la relation une échelle. C'est-à-dire, quand quelqu'un vous dépose entre vos mains quelque chose qui est très palpitant, qui est très viscéral, si ça vous choque, c'est pas plus mal. Tout d'un coup, bouscule une barrière en vous, et ça vous oblige à vous confronter à une confidence dont vous vous rendez bien compte qu'en fait, vous pourriez faire la même dans l'autre sens si vous étiez inspiré de le faire. Vous avez en vous-même des secrets de même intensité, des choses que vous gardez pour vous et que vous pourriez énoncer. Et d'ailleurs, vous êtes souvent, dans ce genre de circonstances, encouragé à le faire. Et c'est là, petit à petit, que de confidence en confidence, on commence à se... On se dévoile, on se montre l'un à l'autre. On se montre l'un à l'autre. Voilà. Et si on a, si on s'est donné, encore une fois, la libide de faire un livre, c'est bien parce que on a, d'une part, la nécessité de se voir beaucoup dans la distance, et puis, on entre ensuite dans la phase de l'élaboration et du commentaire. Et ça, c'était merveilleux parce que j'apportais à ce vieux monsieur, pas si vieux d'ailleurs, j'approche dangereusement de l'âge qu'il avait quand je l'ai connu, mais, je lui apportais des planches dans lesquelles il était enfant, dans lesquelles il découvrait l'existence, y compris dans les toutes dernières heures de sa vie. C'était pour moi très émouvant d'arriver à l'extraire de sa souffrance et de la déréliction dans laquelle il était, en lui montrant une planche dans laquelle il s'abîmait pendant un quart d'heure, en regardant les dessins, en les commentant, et en retrouvant avec une espèce de soulagement sa mère ou tel lieutenant qu'il avait eu dans l'armée, etc. Et je me rendais compte encore une fois du pouvoir extraordinaire qu'ont les récits et l'échange des récits, y compris dans la lutte qu'on peut mener contre la maladie, contre la mort. C'est très important. La nécessité qu'on a de se passer in extremis des choses de l'un à l'autre, je suis absolument convaincu que ça permet de sursoir à certains rendez-vous redoutables, d'essayer de retarder les échéances. Ça a une grande puissance, en fait. C'est une puissance de magique extrêmement forte. Et je l'ai éprouvé avec lui, je l'ai éprouvé avec d'autres. Donc voilà, vous n'avez pas l'impression peut-être que je vous parle des livres. Les livres sont en fait le fruit de ça. Mais le plus important, l'arbre pour moi, le tronc, les branches, c'est devenu en fait les relations avec des gens avec lesquels j'aime être. Je vois mon copain Frédéric Lemercier qui est dans la salle. Une des raisons qu'on a de faire des bouquins ensemble, c'est qu'on aime être ensemble. Accessoirement, les livres se font, ils sortent, on y met tout ce qu'on sait, on se dépatouille. mais c'est un moyen qu'on a trouvé de pas se quitter depuis qu'on a 19 ans.
Voilà. Oui, mais la richesse de cette relation avec Alan, Emmanuel Guibert, elle est. On se demande aussi de quelle façon elle permet la richesse aussi de son expression plastique, parce que quand même, ce sont aussi des laboratoires formels, ces livres, et notamment Martha et Alan, qui est vraiment où il y a plus de cases, où il y a des techniques. Alors, il faut que je prenne des notes parce que moi, j'y connais rien. Sur film transparent de craie aquarellable. Voilà, heureusement que je l'ai noté. Mais voilà, des grandes illustrations. Est-ce que c'est aussi ce qu'il vous donne qui vous permet, vous, d'offrir formellement autre chose, d'aller plus loin?
Oui. Je pense que pour bien faire quelque chose, on a besoin de se faire intérieurement plaisir et de faire plaisir à quelqu'un. Si on n'arrive pas à rassembler en soi ces raisons, il y a de fortes chances qu'on fasse des choses machinales ou qu'on passe tout simplement à côté de la cible. Quand j'ai fait Martha et Alan, Alan était mort depuis belle lurette, mais il est évident que je continue à travailler sous son regard. Non pas que je pense qu'il soit perché sur un nuage en train de regarder tout ce que je fais, mais je pense qu'il n'y a pas de raison que la mort l'ait modifié. Je crois qu'il aime toujours ce qu'il aimait, qu'il déteste toujours ce qu'il détestait, parce qu'il avait un caractère très tranché. Et ayant appris assez tôt, en le côtoyant, à lui faire plaisir, je sais que faire des livres, y compris en son absence, ça consiste malgré tout, avant tout, à continuer à lui faire plaisir. Donc, ça aussi, c'est un mobile suffisamment fort pour se décarcasser. On se dit, j'ai connu un être dont j'ai apprécié vraiment le tempérament, dont j'ai apprécié la culture générale d'autodidacte. J'ai aimé la façon dont cet homme s'est construit, comme il a pu, après une enfance très humble, ayant eu la mauvaise année de naître en 1925, il était mobilisable en 43. Donc cette jeunesse qui est tout d'un coup totalement déviée de son cours par la guerre. Tout ça, ça m'a donné de lui une image. Quand j'étais auprès de lui, c'était pas une image, c'était une sensation. J'avais l'impression, quand il me s'était bien raconté, on rentrait le soir dans sa bagnole, ou alors parce que son jardin était à peu près 1,5 km de sa maison de ville, donc lui, il y allait dans sa vieille Volkswagen. Moi, souvent, j'avais mon vélo. Mais je repartais, j'avais l'impression d'être avec un homme rayonnant à côté de moi. D'abord, il était content quoi, d'avoir abordé quelques chapitres supplémentaires de sa vie. Et puis, moi, j'étais plein de respect, j'étais plein de sentiments qu'on aime avoir pour autrui, en fait. De la considération, sentir l'épaisseur des gens, sentir leur profondeur. Ne pas en être réduit à des impressions strictement passagères et superficielles, comme c'est souvent le cas dans nos relations, mais avoir pris ses dispositions pour pouvoir accéder vraiment aux coulisses de quelqu'un, à ce qu'il y a de charnu, et c'est souvent accéder à quelqu'un, mais accéder à sa lignée aussi. Souvent, on accède à cette zone des êtres quand ils nous ont aussi raconté leurs parents, leurs grands-parents. On commence à se faire un tableau vraiment perspectif. Et j'aimais beaucoup cette sensation. Il n'y a pas à tortiller, c'est bon d'aimer les gens. C'est bon de les respecter. C'est bon d'avoir de bonnes raisons, en fait, de retourner les voir. Cette espèce d'appétit qu'il y a à se dire « je vais prendre un train, je vais aller le retrouver. Je vais frapper à une porte, il sera derrière. » Il y a un autre copain dont je dis deux mots parce que c'est pour moi, ils sont ensemble. Ils étaient d'ailleurs ensemble dans une exposition qui s'appelait justement Biographie dessinée. C'est Didier Lefebvre. Didier Lefebvre, c'était mon ami photographe à qui j'ai consacré une trilogie qui s'appelle Le Photographe. Et Didier, c'est pareil. Quand je savais que Didier allait me rendre visite et qu'on allait aborder ensemble tel ou tel aspect d'une mission que je raconte dans le livre en question, j'avais avant tout une jubilation amicale. Je me disais, je vais passer 2 heures avec quelqu'un de futé. On est quand même... on est voué à s'aviser que les rapports humains sont tellement le jeu du malentendu, de l'agressivité, de la peur. La peur, c'est fou ce qu'on peut avoir les tripes nouées tout au long de notre vie au contact des autres. C'est invraisemblable, comme on transpire dans le dos, comme on a des palpitations, le mal qu'on peut se faire. Enfin, bon, même si on a la chance, tous autant qu'on est, d'avoir vécu jusqu'ici plutôt dans un univers policé, voire très policé, et d'avoir en cela évidemment un immense privilège, on sait bien qu'on vit tous la trouille au ventre. Et dans ce contexte-là, avoir quelqu'un qui frappe à votre porte et dont on sait qu'avec lui, pendant 2 heures, les tripes vont se dénouer, le cœur va s'ouvrir, on va écouter passionnément. Il y aura un enjeu dans le fait d'écouter. Moi, j'ai connu ça aussi à la radio. On en a fait l'expérience, Arnaud et moi, à la faveur d'une émission enregistrée dans des conditions un peu exceptionnelles au moment du Covid. Donc, je pouvais pas être en studio. Vous y étiez. Donc, vous m'avez téléphoné chez moi et je vous ai répondu depuis l'endroit où j'écoute d'ordinaire la radio, c'est-à-dire ma table à dessin. Et j'avais le poste radio où j'entendais Arnaud me questionner, et j'avais l'impression, je le lui ai dit d'ailleurs ce jour-là, d'être dans La Rose Pourpre du Caire, le film de Woody Allen, où un type sort de l'écran pour venir embarquer une des spectatrices qui devient en quelque sorte sa jeune première. Moi, j'avais cette voix qui sortait du poste et qui s'adressait à moi, qui n'était pas une expérience totalement inédite, parce qu'au fond, c'est toujours l'impression que j'ai eue. La radio s'est toujours adressée à moi. Et je lui ai toujours répondu, d'ailleurs. Bon, ce jour-là, c'était très littéral. Mais ça nous a permis d'aborder ensemble ce que c'était que la radio dans la vie des auditeurs, à quel point elle a, enfin en ce qui me concerne en tout cas, c'est peut-être le cas pour vous aussi, une importance absolument centrale, et la quantité d'amitié qu'elle détermine. J'ai eu l'immense privilège, il y a je ne sais plus, 3-4 ans, que France Culture me propose une nuit. Bon, j'avais été l'auditeur éperdu de dizaines et de dizaines et de dizaines de nuits prescrites par des invités qui peuvent choisir dans le fond de l'INA des émissions qui les ont marquées et les partager avec les autres. C'est un très très beau principe. Donc, la productrice qui me recevait, qui s'appelle Mathilde Wagman, qui avait remarquablement préparé son émission, m'avait demandé donc de prescrire un certain nombre d'émissions qu'elle est allée collecter comme ça dans le fond de l'INA et on les a présentées ensemble. Parmi elles, il y avait un enregistrement de Fred 2. J'avais demandé à ce qu'il y en ait aussi il y ait des émissions d'Yann Parentehen, mais elles sont, je crois qu'elles restent toujours difficiles d'accès. Mais j'ai eu comme ça des admirations colossales pour des gens qui sont vraiment entrés dans ma vie par la radio, avec un relief, une présence qui font que je me suis mis à penser à eux comme à des gens que j'aurais côtoyés. Et il y a dans la salle un autre copain qui s'appelle Mathieu Châtelier, qui est cinéaste, qui a consacré à Fred II et à sa femme Cécile Reims des films, je pense qu'ils sont remarquables. Mais à vrai dire, j'en sais rien parce que je suis tellement dedans que Mathieu m'aurait juste montré Fred et Cécile, ne disant rien et assis sur leur chaise, que j'aurais déjà été bouleversé. Mais le fait est que, bon, ce sont des films où Mathieu parle à la première personne de sa relation avec Fred et Cécile. Ils nous mettent de plein pied avec des êtres qui nous ont profondément apporté. Enfin, c'est. Là aussi, c'est encore des amitiés exceptionnelles. C'est venu par la radio, et puis parce qu'on a écouté une radio, un jour on se retrouve à frapper à une porte, et Cécile est de l'autre côté, on lui tombe dans les bras, en lui disant « Vous venez de perdre votre mari, je ne l'ai pas connu, vous ne me connaissez pas, mais via la radio, je vous ai tellement aimé que je ne supporte pas l'idée que vous soyez veuve, et si vous voulez qu'on aille faire des courses à la supérette, ou qu'on aille faire pour vous une démarche à la mairie, je suis là pour ça. » Voilà. L'idée étant de, vous l'avez compris, globalement, avec ses copains, avec la radio, de suivre ses impulsions, en fait. Et de considérer que comme les relations humaines sont la chose la plus importante en ce bas monde, avec, je dirais, une certaine présence à la vie alentour, à notre environnement, bien sûr, comme c'est le sel de notre vie, comme c'est le moteur de notre vie, plutôt que de constamment le subir, plutôt que de s'en détourner par usure, par déception, quand l'occasion vous est donnée de vous en emparer dans l'espoir, il ne faut pas trop attendre de ces choses-là. Il faut y apporter tout son cœur, c'est tout, et puis voir ensuite ce qui se passe. Mais s'il y a du répondant, tout d'un coup, si la porte s'ouvre, si la personne entame la conversation avec vous, et si ça détermine la chaleur d'un foyer, quelque chose où il fait bon revenir, à ce moment-là, c'est bien de se dire... c'est bien de reconnaître qu'il n'y a rien de plus important, qu'il est en train de se passer quelque chose de fondamental et que ça vaut le coup de s'y adonner Ça vaut le coup de déplacer des choses dans son existence, de supprimer, de lâcher du lest, de supprimer des choses de son existence pour y faire cette place-là.
Alors le seul problème de la radio, c'est qu'il y a des horaires. C'est le drame parce que j'ai... Et nous avons, nous qui vous écoutons, envie de vous poser encore 1000 questions, Emmanuel Guibert. Alors pour le très peu de temps qu'il nous reste, je reviens quand même à la question précédente à laquelle... logiquement, vous n'avez pas répondu, qui est la question de la forme. Qu'est-ce qui fait, moi, j'aurais voulu en effet évoquer aussi bien les sardines de l'espace que les carnets de croquis, très important pour moi, vraiment, je cite Le pavé de Paris, parce que c'est vraiment, je trouve un livre absolument fascinant, qui a connu une très belle réédition il y a pas si longtemps. Mais qu'est-ce qui fait que vous choisissez une forme plutôt qu'une autre ?
C'est vrai que la popote, c'est toujours intéressant. La seule chose, c'est que je ne suis vraiment capable d'en parler avec fruit que si j'ai des exemples. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait un petit élément de projection là où je puisse tout simplement ouvrir un livre, pointer un dessin et vous dire ça a été fait de telle et telle manière. Parce que c'est vrai que le champ des possibilités techniques est infini, le champ des combinatoires est infini. Tant mieux, c'est à la fois un supplice de tantale permanent, mais c'est aussi un exercice formidable d'être toujours en train de se frotter à des techniques dont on ignore à peu près tout. Je suis quelqu'un qui, quand il a l'impression de savoir, a tendance à rebattre les cartes et à essayer des choses nouvelles. Alors je dis l'impression de savoir parce que le fait est que la plupart du temps, je sais que je ne sais rien. Mais quand même, on sait que toute technique détermine assez rapidement des automatismes. Quand je sens ces automatismes, je vais ailleurs. Et donc, c'est pour ça que je pratique beaucoup le carnet. D'abord, il est resté dans les coulisses. Sinon, si je l'avais eu dans mon sac à dos, là, je vous l'aurais montré. Il y a un carnet en cours, donc bien sûr, avec toutes sortes de dessins. Et il y a une trousse, il y a un sac à dos. Enfin, il y a tout un dispositif qui n'est pas très sorcier, mais que j'ai greffé généralement dans mon dos, enfin depuis l'enfance, et dans lequel je jette quelques techniques qui me permettent de réagir en urgence aux sollicitations que me fait l'existence. Le dernier bouquin qui vient de sortir s'appelle « Dormir dans les transports en commun ». Donc ce sont des portraits de gens qui roupillent dans les transports en commun. Dans les transports en commun, vous posez très complaisamment pour moi. Vous êtes absorbé dans votre téléphone. Donc il se passe une chose extraordinaire donc depuis quelques années maintenant, décennies. Les gens posaient auparavant, mais il arrivait quand même que des regards s'échangent. Maintenant, c'est à peu près fini. Donc ça libère un champ extraordinaire pour le dessinateur qui peut vraiment, sans vergogne, violenter, s'approprier les gens de son entourage sans que personne s'en avise. En plus, même quelqu'un qui est en train de faire un Candy Crush ou de chercher un Pokémon ressemble à un Vermeer. Il y a une spiritualité dans le visage humain telle que même si on est en train de faire la connerie la plus plate, il rayonne de nous, il émane de nous quelque chose dont un dessinateur ne se lasse jamais, qui est la concentration, un trait de laideur dans la beauté, un trait de beauté éblouissant dans des traits disgracieux, enfin, quelque chose qui fait qu'on a toujours envie d'interroger le visage d'autrui. Et pour ça, ben, on farfouille rapidement dans ses poches. Si c'est un crayon, c'est un crayon. Si la personne dort, on peut imaginer avoir un peu de temps pour chercher un peu mieux. Donc à ce moment-là, on peut choisir sa technique. Et là, selon qu'on a une technique humide, selon qu'on a une technique sèche, selon qu'on travaille pour une estampe, il m'arrive de même de sortir des petits cuivres parfois dans les transports en commun ou un petit calque lithographique pour en tirer une litho un peu plus tard, ou etc. Enfin, ce que j'ai sous la main... Bon, ça accroît évidemment le bonheur qu'il y a à sortir de chez soi, parce que on est en chasse, on a une espèce d'excitation qui tient au fait que le trajet qu'on va faire sera nécessairement intéressant. Il se peut par exemple qu'on décide que ce jour-là, on a besoin de s'apesantir sur les drapés. On a besoin de voir ce que fait un pli de pantalon quand une jambe chevauche l'autre. Et donc on s'intéresse à la première personne qui va nous proposer ça dans le métro. Et alors peut-être qu'elle portera une flanelle ou au contraire un jean qui réagiront pas de la même manière. On se familiarise petit à petit avec quelque chose qui est encyclopédique et qui est infini, qui sont toutes les formes du vivant. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à me concentrer beaucoup, beaucoup sur les gens, parce que par goût, j'ai toujours aimé dessiner les gens. Mon autre cible, dont je ne cherche pas à me défaire, parce qu'elle m'a toujours ébloui, c'est les arbres. Et d'ailleurs, je trouve la familiarité morphologique qu'on entretient en fait avec ces êtres qui ont l'air de ne pas bouger, mais dont on sait maintenant qu'ils communiquent entre eux. Voilà, donc on a tous des sujets comme ça. J'avais un copain architecte à qui j'ai consacré un bouquin qui s'appelait Mike. Et Mike, lui, c'était les bâtiments, c'était la lumière sur les bâtiments, qui est quelque chose qui peut aussi m'intéresser et me toucher, mais que je dessine et que je dessinais beaucoup moins systématiquement que lui. Je sais que maintenant, je les dessine en pensant à lui. Ça aussi, c'est important. C'est croiser des gens au cours de sa vie et ils disparaissent, on les perd et on prend en charge un geste qui était le leur, qu'on s'approprie. C'est un côté assez pieux, comme ça, on se dit, là, je suis en train de faire quelque chose. Je suis en train, en fait, de lui offrir ma main pour qu'il puisse continuer, en dépit de sa disparition, à saisir un motif qui lui plaisait. J'ai dû pulvériser toutes les secondes qui m'étaient autorisées.
Oui, on en reprendrait bien pour une heure. Peut-être faire une trilogie de masterclass d'Emmanuel Guibert. En effet, il me reste pour l'instant à vous remercier grandement d'avoir aussi bien répondu à cet exercice de la masterclass. Merci Emmanuel Guibert.
Merci Arnaud, merci beaucoup.
C'était la masterclass d'Emmanuel Guibert avec Arnaud Laporte, enregistrée à la bibliothèque François Mitterrand. Attaché de production Corinne Amard, coordination Christine Bernard, prise de son Georges Thau et Lucien Lefebvre, coordination technique Francesca Fossati, réalisation Perret Legras.